Bien, j'espère que cette première partie n'a pas été trop complexe. Hein. Je me rends compte qu'en préparant, je disais, qu'est-ce que je raconte beaucoup de choses en très peu de temps. Donc, bien évidemment, chaque chose mériterait d'être prise, développée, etc. Mais vous avez quand même devant vous un avantage fabuleux, c'est que sur chacun des points que je soulève, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages présentes sur Internet qui peuvent vous permettre d'approfondir, de regarder, d'avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, enfin de vous faire votre propre opinion. Donc là aussi, c'est un élément, je crois, très important et intéressant. C'est la capacité du réseau à renforcer l'éducation, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des choses en présence, des synthèses, des profs qui font une synthèse et qui la présentent pendant deux longues heures, n'est-ce pas ? Mais que derrière, chacun des points peut ensuite être approfondi sur le réseau. Mais cet aspect-là n'est pas ou n'est plus, en tout cas, l'usage principal de l'Internet. L'usage principal aujourd'hui se retrouve derrière les médias sociaux. Alors, déjà, pourquoi est-ce que je dis médias sociaux alors que beaucoup de gens utilisent réseaux sociaux ? Je crois qu'il faut être clair, les réseaux sociaux, c'est les réseaux qui existent entre les humains. Il y a une théorie des réseaux sociaux qui est importante. Et dans la vie réelle, comme dit ça, on a plusieurs en fait, réseaux sociaux. On a la famille, les amis, les collègues, les gens qui partagent vos opinions, etc. On a plusieurs en fait, réseaux d'humains, réseaux sociaux. Par contre, ce à quoi nous sommes confrontés quand on parle d'Instagram, c'est votre réseau préféré ? Qui est sur Instagram ici ? Waouh ! 95%. Qui est sur Facebook ? Ah, presque autant. Bon, vous savez que de toute façon, Instagram et Facebook, c'est la même chose. Et quand vous mettez une information sur Instagram, Facebook est au courant. Bon. Qui est sur Twitter ? Oh, mais vous avez le temps de faire les trois en même temps ? Bref, dans ces réseaux-là, dans ces services-là plutôt, vous êtes là avec toute une catégorie de gens que vous ne connaissez pas, mais qui plus est, la majeure partie de ce que vous postez est public. Et d'ailleurs, c'est votre intérêt, puisque vous cherchez à développer votre e-reputation, c'est-à-dire à vous faire reconnaître comme un individu ou un avatar d'individu sur un média social. Mais en même temps, il faut bien l'appeler média social, parce que c'est eux qui tirent les ficelles. C'est le média qui tire les ficelles, et pas vous. Vous croyez être celui qui produit de l'information ? C'est bien, vous écrivez quelque chose sur le média social. Mais c'est le média social qui décide ce que les autres vont voir de ce que vous écrivez. Et donc c'est bien un média. C'est un média qui choisit, qui sélectionne pour vous. L'algorithme Edge de Facebook a des règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est, oh là, moi j'ai un millier d'amis sur Facebook, bien évidemment, des grands copains, je leur tape dans le dos tous les jours. Mais globalement, ils voient très très peu de mes messages. Chacun de mes messages doit être vu 50, 100 fois. Et moi-même, je ne vois de chaque individu que quelques messages de temps en temps. Et il y a des gens dont je ne vois jamais les messages. Parce que Facebook a estimé, à ma place, je ne lui ai jamais dit, lui, c'est mon copain, mais en fait, je ne veux pas voir ce qu'il raconte. Non, je ne lui ai jamais dit. C'est Facebook qui a décidé, son algorithme a décidé, mais derrière, c'est les gens de Facebook qui ont utilisé un modèle de ce qui va m'intéresser. Et il me présente un certain nombre de personnes parmi ce réseau. Et ils choisissent qui ? Ceux que j'ai eu l'occasion de liker, ceux que j'ai eu l'occasion de redistribuer, ceux que je vais voir régulièrement, etc. etc. Et c'est ceux-là pour lesquels Facebook m'avertit qu'ils ont fait quelque chose de nouveau. Ou c'est ceux qui ont... Enfin, c'est les gens actifs qui sont mis en avant à l'intérieur de ce que je peux suivre. Dans le temps, Twitter ne fonctionnait pas comme ça. Twitter fonctionnait par ordre chronologique. Et maintenant, il commence à fonctionner comme ça. Il y a les tweets que vous allez aimer. Il sait mieux que moi ce que je vais aimer. Et surtout, il m'interdit des découvertes nouvelles, ce qu'on appelle la bulle de filtre. Il limite mes capacités à découvrir des choses nouvelles. Alors, sur Twitter, il y a un petit réglage. si vous avez Twitter, donc j'ai cru comprendre que vous l'aviez presque tous, il faut aller voir, il y a un petit réglage qui permet de dire, moi je veux revenir au mode chronologique, voilà, je suis à l'instant T, je regarde qui est en train de publier quelque chose. Et donc on peut avoir des surprises. Dans le monde des médias sociaux, on est censé ne pas avoir de surprises. C'est très, je dirais, consensuel, c'est plutôt du rabotage de l'information. Et quand on rabote l'information, on finit par avoir que de l'information avec laquelle on est d'accord, donc ce qu'on appelle la bulle de filtre. Alors les bulles de filtre existent auparavant, mais quand même, sur Facebook, c'est très très fort. C'est d'autant plus fort que Facebook lui-même devient un outil de surveillance. Et ce qui est intéressant, c'est un outil de surveillance auquel nous participons. Nous sommes volontaires pour être surveillés. Et je dis nous, hein, moi comme les autres, hein, c'est pas une critique de dire ça, c'est de dire nous retrouvons aujourd'hui dans une situation très particulière où les gens sont volontaires pour donner de l'information à des systèmes alors qu'ils savent très bien, parce que ceux qui ne savent pas aujourd'hui, c'est qu'ils disent plus rien d'autre, hein, ils savent très très bien qu'ils sont surveillés à l'intermédiaire de ce système. Et ils savent pertinemment que ce système ne leur dit pas tout. Je vais y revenir. Alors, ça pose des problèmes d'identité. Hein. C'est important l'identité, parce que je disais tout à l'heure en introduction que l'Internet, le réseau, le numérique, doit être vécu comme un écosystème. Nous sommes dedans. Et donc, si nous sommes dedans, nous avons un avatar qui existe à notre place sur le réseau. Notre représentant numérique, c'est lui en fait qui est calculé en permanence par les médias sociaux. Est-ce que c'est nous ? Dans la vie physique, notre identité se mélange, je prends là des choses qui viennent d'un sociologue qui s'appelle Erwin Goffman, qui est en photo dans la diapo suivante, hein. Bon, on y reviendra. Erwin Goffman dit qu'il faut distinguer ce qu'on donne et ce qu'on dégage. Ce qu'on va dire, et puis on sait très bien quand quelqu'un ment. Enfin, vous regardez la télévision, vous voyez nos hommes politiques et vous savez qu'ils mentent, mais ça se voit à ce qu'ils dégagent, mais ils nous disent des belles paroles sans problème. Donc voilà, dans les réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment ce qu'on dégage. En tout cas, ce qu'on dégage va être quelque chose de complexe qui va tenir du fait d'avoir lu beaucoup de posts qu'on a pu faire. Donc au bout d'un certain temps, on voit se dessiner réellement la figure. Mais qui tient aussi de ce que les autres disent de vous. Qu'est-ce qu'ils reproduisent, qu'est-ce qu'ils font suivre, qu'est-ce qu'ils retweetent, qu'est-ce qu'ils partagent, etc., etc. Donc les autres participent aussi de la propre définition de notre identité. La deuxième question qui est posée, par exemple, de ces médias sociaux, c'est la question dite de la vie privée. Là aussi, il faut faire très attention. La vie privée, ce n'est pas uniquement ce qu'on fait dans sa chambre à coucher une fois qu'on a fermé la porte à clé. Hein? La vie privée, ça peut se faire en public. On peut dire des choses en public et qui font partie de la vie privée. Exemple, je vais dans une manifestation, ça fait partie de ma vie privée. Mon patron n'a pas à me le reprocher. Etc. Donc la vie privée existe même dans les lieux publics. C'est juste ce qu'on dit qui ne veut pas être public. C'est pas parce que je suis dans un lieu public que je n'ai pas de vie privée. Et derrière cette vie privée, toujours ce Erwin Goffman, grand sociologue, parle de quelque chose qui est important qui s'appelle l'inattention civique. J'essaye de ne pas faire attention à mon voisin. Coincé dans l'ascenseur, je ne le regarde pas dans les yeux. Je tourne la tête, je fais en sorte qu'on soit là, ou alors on parle. Mais je ne le regarde pas, je ne l'examine pas, je ne le juge pas. J'essaye de ne pas être attentif à qui il est parce que nous nous côtoyons. Mais nous ne sommes pas là pour nous juger, nous surveiller, etc. etc. D'où l'existence, vous savez, ce monde de zombies là, que je vous ai montré au début où chacun était côte à côte avec. Ben oui, mais ça fait aussi partie de l'inattention civique. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas uniquement que l'on ne veut pas voir son voisin. C'est que si on n'a pas quelque chose à lui dire, on veut le laisser vivre sa vie. Et donc chacun laisse l'autre vivre sa vie. On a là un outil. Encore une fois, c'est le yin et le yang. Toutes ces choses-là sont quand même sacrément entremêlées. Et celui qui voudrait trancher dans le lard comme ça serait, à mon avis, quelqu'un qui ne tient pas compte de la réalité de nos relations humaines, de ce que c'est que la vie privée et de ce que c'est réellement que l'identité. Parce qu'en fait, c'est compliqué. C'est le titre d'un excellent livre publié chez un excellent éditeur et traduit par un excellent auteur. Voilà. Donc, Dana Boyd a beaucoup travaillé justement sur ces notions-là de vie privée chez les adolescents. Alors, vous en sortez, vous savez certainement bien mieux que moi ce dont il est question. Mais c'est, en fait, la vie privée, c'est le droit à être laissé tranquille. C'est « do not disturb » qu'on met sur la porte de sa chambre. Ce qu'en France, des sociologues appellent la culture de la chambre chez les adolescents. Laissez-moi tranquille. C'est de savoir quel est l'accès que les autres ont à vous. Hein? Et puis, c'est enfin choisir si une information va être publique ou pas. Quand on met une photo de soi un soir de fête sur Facebook, est-ce que ça vaut le coup que tout le monde soit au courant ou est-ce que c'est juste pour ceux qui étaient avec nous et qui le savent très bien? Mais en même temps, ceux-là, ils peuvent faire du docking, c'est-à-dire ils peuvent récupérer nos photos et les montrer à d'autres. Et donc, dans quelle mesure est-ce que cela ne va pas être contraire à notre propre intérêt? Alors, les gens disent après, ben, il ne faut pas mettre de photos, c'est tout. Il n'y a qu'à pas mettre de photos sur Facebook. C'est idiot. Un employeur moderne aujourd'hui, il va regarder votre Facebook. Il dit, mais vous ne faites jamais la fête? Oh là là, je ne veux pas de vous. Le monde a changé. Les choses sont imbriquées, encore une fois, à nouveau très complexes. Et donc, on est dans une situation où on ne peut pas dire, il faut mettre des photos ou pas mettre des photos. C'est compliqué. C'est le terme utilisé. D'ailleurs, vous savez bien que dans Facebook, le choix étant « je suis célibataire, en couple » ou « c'est compliqué ». Et la plupart du temps, c'est compliqué. Alors, derrière ces questions des médias sociaux, un média, c'est toujours quelqu'un qui donne à un lecteur et qui vend à un client. Le client, c'est celui qui va le payer pour pouvoir donner au lecteur. C'est-à-dire la publicité principalement. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Alors l'économie de l'attention, c'est... En fait, on ne rend pas seulement un service à un usager, hein, mais on va essayer de le garder dans ses raies le plus longtemps possible. On va faire en sorte que l'usager devienne fidèle. On veut le conserver sur la plateforme. Et là, ce qui est un problème, là, ce qui est vraiment la limite du système, c'est que tous les moyens sont bons. Typiquement, la plateforme Uber, donc c'est les usagers de la plateforme Uber, il y en a deux types, hein, il y a les chauffeurs et les clients. Pour les clients, ce qui les intéresse, c'est le prix et la disponibilité d'un chauffeur pas loin, très vite, dans 5 minutes, il sera là, etc. Pour la plateforme Uber, elle veut que ses chauffeurs travaille le plus longtemps possible. Il n'y a plus de droit du travail, hein, donc il n'y a plus de limite. Donc c'est un chauffeur individuel. Et là, Uber va utiliser toutes les méthodes de la psychologie comportementale. Tu n'es plus qu'à 300 points pour... tu n'es plus qu'à une course de $20 pour passer les $300. Ah, quand on est juste en dessous de 300, on dit, allez, je vais en faire encore une. Je vais passer les 300. C'est ma 13e heure de course. C'est pas grave, je continue. Etc. Donc, tous les ressorts sont utilisés. Il y a un client qui est là, juste à 5 minutes de l'endroit où tu es. Est-ce que tu peux encore le prendre? Et donc, à chaque fois, des challenges pour faire que, en l'occurrence, le chauffeur reste le plus longtemps sur la plateforme. Ces méthodes de la psychologie comportementale sont utilisées par toutes les plateformes, pour que vous restiez le plus longtemps possible à les utiliser. Alors, sur YouTube, c'est simple, ça s'appelle l'enchaînement des vidéos. C'est quelque chose, vous voulez regarder une vidéo sur YouTube, elle va vous enchaîner une autre vidéo. Pas n'importe quelle vidéo. En général, elle va enchaîner des vidéos addictives. Je crois que c'est la diapo d'après, voilà. C'est YouTube a un système, il est capable, quand une vidéo est postée, de savoir quel est son coefficient de viralité. Ils ont un algorithme qui détecte dès les premières minutes, combien il y a de lecteurs, quel est le potentiel de cette vidéo, etc. Et ensuite, ils vont vous les proposer. Si vous regardez bien, là, quand vous avez regardé une vidéo, la colonne de ce qu'il va vous proposer ensuite, il y a des trucs qui ne sont pas du tout de vous. C'est juste des trucs addictifs et populaires. Et le deuxième aspect, c'est que ce qu'il y a sur la colonne qu'il va vous proposer va de pire en pire. Parce que plus vous êtes en train de regarder des vidéos, et plus il faut que ça vous accroche encore. Et ça fait quand même 20 minutes que vous êtes devant la vidéo. Là, vous pourriez dire, attends, il est l'heure de se lever et d'aller boire un verre d'eau. Non, non, il faut vous en représenter une à nouveau. Donc, renforcer cette addictivité, c'est vous proposer une vidéo encore plus salace, extrémiste, etc. D'où la montée spontanée. C'est des études de psychologie cognitive qui font qu'il y a une montée spontanée aux extrêmes, qui favorise l'usage par les extrêmes. Là aussi, ce qu'on appelle les fake news, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc on a un phénomène de l'addiction qui est mis en place par les vidéos populaires. Les vidéos les plus populaires, c'est aussi qu'on ne veut pas fear of missing out, FOMO. J'ai peur d'avoir raté quelque chose que tout le monde a vu. Et donc les vidéos populaires vont être là aussi des vidéos les plus addictives. Une entreprise qui vit très très bien de ça, c'est Netflix. La base même de Netflix, c'est l'idée d'un algorithme de recommandation. En 2009, Netflix a lancé un concours doté de, je crois que c'était une très grosse somme, plusieurs millions de dollars, pour améliorer son algorithme de recommandation. Pourquoi ? Quand vous avez terminé quelque chose sur Netflix, vous avez global... Netflix, vous avez. Oui, vous avez tout le temps dans la vie. C'est le moment de se lever, d'aller boire un coup, etc. Non, Netflix veut vous garder. Et donc, il va essayer de vous proposer dans 60 à 90 secondes. C'est très, très court. Parce que sinon, vous lassez, vous levez. Et vous ne revenez plus sur la plateforme le lendemain. Donc, il veut à 60 à 90 secondes pour faire en sorte que vous restiez assis devant Netflix à lancer quelque chose de nouveau. Et là, il faut qu'il vous propose quelque chose qui va vous intéresser. Alors, les algorithmes comme ça, parce que je suis de Netflix, il y en a d'autres sur Facebook, sur YouTube, sur etc., essayent de dire que c'est personnalisé. Oui, il y a un aspect de personnalisation. Netflix a automatiquement fabriqué 70 000 catégories qui correspondent au microsystème que vous aimez et puis au microsystème pour décrire les vidéos. Et donc, vous proposez des vidéos qui correspondent à ce que vous avez l'habitude de voir. Accessoirement, ça vous enferme peut-être un peu dans ce que vous avez toujours été. Enfin, vous voyez cette logique de la continuité. Mais surtout, si vous regardez bien, ce que vous propose Netflix, c'est des choses populaires, c'est des choses que les autres ont vues, et c'est des choses produites par Netflix, parce que c'est ce qui lui rapporte le plus, au final. Donc, on est là avec une espèce de mythe de la personnalisation de la recommandation. Il y a une partie, mais ce n'est pas ce qui est majoritaire aujourd'hui. Voilà. Alors après, l'autre aspect pour Netflix, c'est de, quand il vous propose des choses, c'est de repérer ce qui va intéresser les gens. Vous, mais des milliers de gens, des statistiques. Et à partir du moment où vous allez avoir des statistiques, globalement, Netflix arrive à savoir qu'est-ce qui plaît. Qu'est-ce qui plaît ? Donc à faire des scénarios qui correspondent à ce qui va plaire, en fait, aux gens qui regardent les films. Jusqu'à arriver, la semaine dernière, à ce que ce soit un film de Netflix qui ne sera jamais projeté en salle, quelques salles exceptionnellement, qui a eu le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Voilà.
Now, if you're playing ça, c'est David the movie Lynch. On a telephone, you will never in a trillion years experience the film. You'll think you have experienced it, but you'll be cheated. It's such a sadness that you think you've seen a film on your fucking telephone. Get real.
Voilà, get real, c'est-à-dire, est-ce que c'est un film qu'on voit seul et isolé sur un téléphone, ou est-ce que le film est ce qui existe dans une salle de cinéma? Je ne réponds pas à la question, parce que visiblement, elle partage aujourd'hui tout le milieu du cinéma avec cette nomination à la Mostra de Venise, alors qu'à Cannes, au mois de mai, les films présentés par Netflix avaient été rejetés de la compétition. Alors, les médias sociaux nous transforment en cobayes. Il y a eu une expérience dont le titre est Experimental Evidence of Massive Scale Emotional Contagion, la contagion émotionnelle dans un réseau social. C'est publié dans les actes de l'Académie des sciences des États-Unis, grande revue scientifique. Et qui a mené cette expérience ? Les gens de Facebook. Les gens de Facebook qui ont modifié le fil de 700 000 personnes sur Facebook, ils les ont transformées en cobayes. À certains, ils ont mis des mauvaises nouvelles, des choses tristes, des choses comme ça, et ils ont mesuré l'impact sur les gens qui se mettaient à poster des choses tristes. Et en sens inverse, à d'autres, ils ont mis des choses gaies, et ils ont vu que ça pouvait les entraîner. Donc on s'aperçoit là qu'il y a une contagion émotionnelle à l'intérieur des médias sociaux. Mais surtout, on s'aperçoit qu'en nous ayant transformés en cobayes, Facebook est capable de manipuler cette contagion émotionnelle. Ce ne sont pas uniquement nos habits, puisque c'est le choix de Facebook d'avoir tweaké son algorithme pour nous le présenter comme ça. Mais s'il le faut pour publier un article dans les actes de l'Académie des sciences des États-Unis, pourquoi ne le ferait-il pas au quotidien ? Pourquoi ne le ferait-il pas pour des motifs politiques, ou pour des motifs économiques, ou pour des motifs militaires, ou pour n'importe quel autre motif qui leur permettrait d'utiliser leur réseau de données, leur réseau d'influence, pour changer notre modèle de comportement. De même, on a pu s'apercevoir, c'est des études, vous allez voir parce que vous êtes en humanité numérique, que les sciences humaines utilisent de plus en plus les médias sociaux comme support à leurs recherches. Et on s'aperçoit que les gens qui sont passifs deviennent tristes et les gens actifs deviennent plus gais. Alors ça veut dire que, si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes sur les médias sociaux, agissez. Publiez, mettez des photos, commentez, parce que sinon, vous allez recevoir un flux tellement important que ça va transformer votre mood intérieur. Hein? Alors, vous vous rappelez la vidéo tout à l'heure de 1984, où vous aviez tous ces gens en costume de flanelle grise et la seule jeune fille en couleur qui arrivait pour détruire Big Brother. Ben, cette photo, c'est Mark Zuckerberg et puis tous ces gens avec les systèmes individualisés de réalité virtuelle devant eux. Si on compare à 40 ans de différence les deux situations, il y a là quelque chose d'assez frappant. Il y a un livre très intéressant en anglais. Il n'est pas traduit, même par un excellent éditeur que je connais, mais qui s'est posé la question, Jaron Lanier. Jaron Lanier, c'est justement un des inventeurs de la réalité virtuelle dès les années 80 et qui commence à se poser des questions, à se dire, mais attendez, où on va ? C'est quoi ce monde ? Et il nous dit, voilà 10 arguments pour que vous arrêtiez tout de suite avec votre compte sur les médias sociaux. Il dit qu'en fait, le problème, c'est qu'on a en face de nous ce qu'il appelle des bummers. Les bummers, c'est « behavior of user modified and made into an empire for rent ». C'est-à-dire le comportement des outils de modification du comportement des utilisateurs pour créer un empire de rente, de bénéfice. Et que là, ça pose de vrais problèmes. L'objectif des plateformes est bien celui qui avait été décrit auparavant dans l'article de 2014 dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'agit de modifier l'état d'esprit des usagers des médias sociaux. Alors pourquoi ? Principalement pour l'influence publicitaire. C'est un peu connu. Mais ajoutons le militarisme. En Angleterre, l'armée utilise le média Facebook, le média social Facebook, pour repérer les jeunes qui sont en difficulté de manière à leur proposer à titre individualisé de s'engager dans l'armée. C'est aussi la politique, hein, les fake news, et puis le renforcement des convictions. C'est-à-dire le fait que par l'algorithme de Facebook, on ne va plus rencontrer globalement que des gens qui pensent comme nous. Et donc on va finir par vraiment croire que le monde entier pense comme nous et que donc ceux qui nous dirigent ou ceux qui s'opposent à nos directions, selon le camp qu'on a choisi, sont vraiment des gens, des zombies minoritaires, etc. La logique du fait que, quoi qu'il arrive dans tous les pays, on est autour de 50%, moitié-moitié, un peu plus, un peu moins, enfin, ah, et que donc il y a autant de gens qui ne pensent pas comme nous que de gens qui pensent comme nous, ça, c'est une logique qui disparaît complètement de la présentation de l'information à l'intérieur des médias sociaux. Et donc, une des conséquences de ça, c'est l'agressivité. Dès qu'on va tomber sur quelqu'un qui fait partie de l'autre 50%, on va le considérer comme un minoritaire isolé et on va n'avoir qu'une envie, c'est pas de le convaincre, c'est de lui taper dessus. Donc, voilà. Donc on est dans une nouvelle logique et bon, il décrit ça à longueur de livre. Je voudrais juste insister, faut au moins que vous lisiez dans une autre langue les livres. Tout ne sera pas traduit en français, même par d'excellents éditeurs que je connais. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faudra lire dans leur langue d'origine. Et il est vrai que sur ces questions du numérique, il y a beaucoup de choses en anglais. Donc, voilà, vous y mettez maintenant. Vous lisez tous les jours un peu la presse. Par exemple, vous lisez le New York Times, vous avez un jour d'avance sur le monde, puisque le lendemain, ils traduisent. Et donc voilà, vous faites un peu des efforts dès maintenant et vous verrez au bout d'un certain temps. J'ai eu beaucoup de mal au début, vous savez, j'ai fait de l'anglais que au niveau terminal, comme vous. Mais en fait, avec l'habitude, on s'y fait. Voilà. Message annexe. Alors voilà, donc on a construit une société de surveillance en baissant le prix de la surveillance par l'usage qui en est fait par ces grandes entreprises. Et à partir du moment où on a baissé le prix de la surveillance, tout le monde va vouloir s'en servir, y compris tous les États, pour tout faire, pour gérer tout, pour gérer les contestations, mais aussi pour gérer les individus, les services sociaux, etc. On va capter de l'information. La logique de « je capte de l'information sur les individus pour la retraduire dans une logique d'influence ou une logique de contrôle » est devenue ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance, qui aujourd'hui, vous mesurez bien que les deux plus grandes capitalisations boursières sont Apple et Amazon, qui viennent de passer pour la première fois le milliard de dollars. Voilà.
Ah. 2018. Europe is the tech mecca. Startups are flourishing. Consumers are enjoying the best apps available. And revenue from data-driven ads helps make that possible. Until one day, the apps go dark. Data-driven advertising is no more. Less revenue, fewer startups, fewer apps. An appless future consumers never saw coming. From tech mecca to tech wasteland, enter the apocalypse, coming soon to cinemas.
Alors voilà, ça c'est un film fait par le lobby des entreprises de la surveillance, c'est-à-dire des entreprises qui vont capter l'information sur les individus pour faire de la publicité ciblée. Et c'est un lobby qui s'oppose à quoi ? À un règlement qui est en discussion à l'Union européenne. Nous avons eu en mai le RGPD, je pense que vous en avez entendu parler, le Règlement général de la protection des données. Et il y en a un autre qui est en discussion, qui va encore plus loin, qui s'appelle e-privacy, qui consiste à défendre, à protéger, et c'est le rôle de la loi de protéger, à protéger le citoyen face à cette intrusion extérieure. Voilà. Et ce règlement-là, vous avez vu, c'est que le début d'avoir les lobbies qui le présentent comme, à partir du moment où on ne pourra plus avoir de la publicité ciblée, donc du traçage d'individus. On n'a pas de publicité ciblée si on ne trace pas les individus. Et on a bien vu que si on trace les individus, ça va servir à autre chose qu'à la publicité. Voilà, donc on est dans ce monde, ce capitalisme de surveillance, et aujourd'hui, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de pouvoir, et ils ont en plus le pouvoir de gérer les outils qui vivent de cette publicité ciblée, et donc ils ont du pouvoir sur vous. Donc je vous dis, méfiez-vous de tout ce que vous allez entendre à partir de maintenant sur le règlement e-privacy. Vous vous rappellerez de cette vidéo. Alors après, une fois qu'on a capté l'attention des gens, il faut la convertir. Hein, capter l'attention, c'est une chose, rendre les gens addicts, c'est une chose, mais après, il faut convertir ça pour devenir les puissances financières, économiques, que sont aujourd'hui nos boomers. Hein. La question, c'est de savoir quel est le client. Il y a une règle sur Internet qui dit « si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Ben, ce n'est pas tout à fait juste, etc. C'est un peu exagéré. Oui, mais il y a quelque chose derrière qui représente une certaine réalité, c'est-à-dire que ce qui est vendu par les médias sociaux, par les médias en général, c'est le format même des médias, c'est l'attention qu'on leur porte est convertie auprès d'un client, globalement la publicité, mais pourquoi pas l'intervention russe dans les élections américaines, puisque ça a rapporté à Facebook. Pourquoi pas le militarisme anglais, comme je vous le disais tout à l'heure, puisque ça rapporte à Facebook, et ainsi de suite. Donc on a là un problème de convertibilité. Mais il y a une deuxième convertibilité de l'économie de l'attention, qui est importante à comprendre dès le début. Les entreprises modernes, les entreprises du capitalisme cognitif ou du capitalisme numérique ou tout ça, ont deux marchés. Un marché double face. Double face, ça veut dire que c'est gratuit pour une des faces et c'est l'autre qui paye. Typiquement, le média, la télé, ce que vous faites sur Internet, Facebook, Twitter, etc., c'est gratuit pour vous, mais il y a quelqu'un qui paye derrière. Bon, un marché double face, plus un autre marché qui est celui des investisseurs en bourse. Là où des entreprises qui ne distribuent pas de dividendes, comme Apple, augmentent quand même en bourse, ou baissent, parce que d'un seul coup, ils n'ont pas eu une bonne annonce à leur convention annuelle, etc. C'est là aussi que se joue. Et ça, c'est un marché typiquement d'image de marque. Ça monte, ça baisse, mais ces entreprises ne distribuent pas de dividendes. Amazon, 1 milliard de valorisation boursière, ne distribue pas de dividendes. Donc, de toute façon, ce n'est pas pour ça que les gens vont acheter des actions d'Amazon. C'est parce qu'ils pensent les revendre plus cher. Et donc, on a un marché qui est complètement spéculatif, mais qui est basé sur l'image de marque que donne une entreprise. D'où la nécessité pour cette entreprise de capter beaucoup de gens et de les rendre addicts, de se les garder dans ses filets pour pouvoir les vendre à un deuxième marché qui est le marché de la capitalisation boursière. Donc, vous voyez, c'est important de voir qu'il y a deux marchés pour lesquels c'est intéressant pour les entreprises de les capter. Je dis que, quelque part, vous savez, en économie, on distingue la valeur d'usage, la valeur marchande. Je rajoute pour celle-là une valeur de pouvoir. Quelle est la valeur de pouvoir qu'ont ces entreprises qui sont capables de capter, de rendre addict toute une population? Moi, c'est ce que j'appelle une industrie de l'influence, c'est-à-dire transformer l'influence en une méthode industrielle à base d'algorithmes, à base de captation de mégadonnées, de gigantesques données sur vous. Enfin, la formule dit que Google en sait plus sur vous que votre psychanalyste. Donc voilà. Et d'interprétation. Et ça a commencé très très tôt. J'aime beaucoup cette citation qui date de 1994. On était au tout début de l'Internet. Et elle est produite par Edwin Hartz, qui était le responsable de la publicité chez Procter & Gamble. Procter & Gamble, plus gros annonceur publicitaire du monde. Hein, c'est les lessives, c'est des choses comme ça. Les couches Pampers, enfin, toute la télévision, les publicités télévisées et tout, il y en a une large part, ça vient de chez Procter & Gamble. Et il dit, dès 1994, si nous sommes assez malins, les gens seront vissés devant leur écran à l'heure de la publicité parce qu'on leur parlera à eux. Et donc, nous pourrons intervenir sur ce qu'ils sont, leur proposer des couches Pampers parce que nous savons qu'ils viennent d'avoir un bébé. Donc voilà, ça fait partie de la construction même de l'Internet au moment où ce qui était majoritaire dans le discours, c'était les utopies. Les gens de la publicité avaient déjà percuté cette idée qu'il allait pouvoir y avoir un contrôle individuel. Je vais accélérer parce que sinon je n'aurai pas le temps et donc ça, j'en parlerai lors de la prochaine séance sur au-delà de la vérité, parce que je voudrais quand même terminer sur une note positive. Pour terminer, c'est quand même toujours mieux. Donc on voit le côté noir, mais on voit aussi que l'Internet a permis l'émergence de choses fabuleuses, collectives, qu'on appelle les communs de la connaissance. Un des premiers à avoir fait ça, c'est ce jeune homme. Alors aujourd'hui, il est en plus un peu plus vieux que moi. Il n'a plus les cheveux longs, il a toujours la barbe. Et il s'appelle Richard Stallman. Et Richard Stallman, en 1984, crée la Free Software Foundation, la fondation du logiciel libre. Et il invente cette idée que le logiciel est en passe de devenir l'endroit où toute l'information, toute la connaissance se retrouve orchestrée, organisée, englobée dans du logiciel. Et que si ce logiciel est encodé par une entreprise, Microsoft, DEC, IBM ou je sais quoi, qui seul est capable de comprendre comment ça fonctionne, alors tout peut se passer dans notre dos. Nous perdons la liberté des informations que nous mettons à l'intérieur d'un logiciel. Donc il va dire bah, il faut qu'on développe des logiciels libres, c'est-à-dire des logiciels dont tout le monde, d'autres informaticiens, et voire même quelques autres informaticiens compétents dans le domaine, sont capables de regarder comment ils fonctionnent et donc de voir qu'il n'y a pas de porte dérobée, qu'il n'y a pas d'usage clandestin, qu'il n'y a pas de virus, qu'il n'y a pas, etc., etc. Et puis, des logiciels, on a vu, j'ai parlé d'industrialisation des serveurs, mais il y a aussi une industrialisation des logiciels. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on écrit un logiciel, en fait, on va chercher un bout par-ci, un bout par-là, des choses déjà faites. Enfin, on condense des choses et on rajoute juste une petite partie. Et ça, pour que ce soit possible, il faut que toutes ces pièces détachées que l'on va chercher pour les regrouper dans un logiciel soient accessibles gratuitement, disponibles, enfin, qu'on puisse les comprendre, qu'elles soient documentées, qu'on puisse regarder ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc il crée cet univers, cette communauté de gens qui vont développer en logiciel libre. En 1984, c'était osé. C'était pas nombreux. Aujourd'hui, c'est majoritaire. C'est y compris les grandes entreprises, IBM, Microsoft, non pas Apple, non, Google, etc., versent une partie de leurs travaux dans le monde du logiciel libre pour que d'autres puissent les réutiliser. Voilà. Autre outil fabuleux qui est créé grâce à l'Internet, c'est la plus grande encyclopédie du monde. Plus de 300 langues, des millions d'articles. La plupart des connaissances disponibles ont un représentant dans cette encyclopédie, ce qui aurait été strictement impossible avec une encyclopédie imprimée, vous imaginez le poids sur les rayonnages, et avec une encyclopédie dont on connaîtrait les auteurs. Parce que ce qui permet à Wikipédia de faire ça, c'est qu'il y a des centaines de milliers d'auteurs, des gens comme vous qui peuvent rajouter de l'information, corriger une information erronée, créer une nouvelle fiche, enfin, faire vivre cette encyclopédie. Bon, soyons réalistes, il y a à peu près 10% des usagers de Wikipédia qui financent Wikipédia, c'est-à-dire qui tous les ans, là ça commence maintenant, ça s'arrête en décembre, il y a une collecte faite par Wikipédia où Wikipédia dit bah, « donnez-nous quoi ? Allez, 10 dollars, le prix d'un paquet de cigarettes ». Et si seulement 10% des gens qui utilisent Wikipédia le fait, alors j'espère que vous êtes dans les 10%, bon voilà, c'est ça qui va permettre de faire fonctionner le système et de l'augmenter. Mais ça permet aussi d'avoir des individus qui construisent la connaissance au travers de Wikipédia. Ce qui est intéressant dans Wikipédia, c'est que la connaissance, elle n'est pas amenée de l'extérieur, mais il y a des débats qu'il y a pour chaque article. Les discussions. Alors, il y a des choses qui ne prêtent pas à discussion, mais il y en a d'autres qui prêtent à discussion. Et là, ça permet d'avoir quels sont plusieurs points de vue autour d'un thème ou d'un sujet de connaissance. Il y a un autre système que vous connaissez peut-être qui s'appelle OpenStreetMap. Là, c'est l'idée, vous avez vu que de plus en plus dans les sites, on utilise des cartes. Hein, les cartes, c'est une manière. Avant, les cartes, c'était un outil de pouvoir. Vous savez, on parle des cartes d'état-major. Pas pour rien. Hein, l'état-major, c'est direction militaire d'une opération. Donc la carte, c'est un outil de pouvoir. En donnant à tout le monde la capacité de créer des cartes, d'y mettre des points d'intérêt, de rajouter de l'information, de vérifier la qualité de la carte, est-ce qu'elle est précise, pas précise, de changer le nom des rues, d'intervenir sur OpenStreetMap, on crée un nouveau commun cartographique qui va pouvoir est utilisé et qui donc rétablit cette logique de l'équilibre des pouvoirs autour de la cartographie. Par exemple, les pompiers, les SDIS, de plus en plus utilisent OpenStreetMap. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent facilement rajouter les informations qui les intéressent, eux. Où sont les points d'eau, où sont les zones dangereuses, où sont les canalisations, enfin, des choses qui n'apparaissent pas sur d'autres sites de cartes que personne, enfin que moi en tout cas, j'aurais pas l'idée d'aller mettre, mais eux, c'est leur métier, et ils vont les mettre, et ils les retrouvent après sur OpenStreetMap. Donc là aussi, ce qu'on appelle un commun, parce que c'est un travail en commun qui est offert à tous. Et puis j'aime beaucoup celui-là, c'est Contributopia. Avant, ça s'appelait Dégooglisons l'Internet. C'est-à-dire, comment proposer l'équivalent de ces services faits par les bummers, c'est-à-dire par des gens qui se servent d'un service pour capter de l'information sur vous, comment proposer l'équivalent dans un monde qui ne capte pas les données personnelles, qui reste un monde du commun. Là aussi, le mode de financement, c'est on fait des dons, réguliers ou pas, à Framasoft, qui va mettre en place des outils rendus disponibles. Et aujourd'hui, la majeure partie des outils utilisés par les grands systèmes ont leur équivalent. Parfois, c'est un peu plus compliqué, parfois ça marche peut-être un peu moins bien, bon, ok, mais ça va venir. Ont leur équivalent dans le monde sans traçage, qui est le monde de Contributopia aujourd'hui, donc derrière Framasoft. Voilà. Donc c'est là pour dire que cet Internet a réussi à mobiliser des gens pour construire, à l'intérieur même de ce réseau, qui par ailleurs est aussi un réseau qui agit pour le capitalisme de surveillance, à construire du commun, à construire des choses qui sont ouvertes à tout le monde et qui participent de l'activité de tout le monde. Est-ce que c'est gratuit ? Est-ce que c'est payant ? Encore une fois, c'est un faux problème. Dès qu'on vous pose le problème de la gratuité... Je comprends, à votre âge, vous n'avez pas d'argent. Le problème de la gratuité, c'est ouais, j'y accède ou j'y accède pas. Mais ça n'existe pas, la gratuité. La gratuité, c'est qu'est-ce que j'ai payé autrement, avec toutes les logiques d'attention dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais on peut imaginer d'autres formes qui permettent la gratuité pour l'usager, tout en permettant une économie, c'est-à-dire une rémunération de ceux qui produisent. Typiquement, c'est le cas de l'école. Vous venez ici, c'est gratuit ou c'est pas cher, ou c'est encore pas cher, on va espérer que ça dure, mais les profs sont payés. Vous voyez, on a bien des tas de systèmes qui permettent de socialiser en fait la capacité à financer les produits et les outils qu'on va vous donner. Et puis, il y a le choix de l'activité des individus. Les licences Creative Commons sont justement le choix d'auteurs, photographes, musiciens, auteurs de textes, etc., qui disent « Mon travail, écoute, oui, j'ai pris une photo. Oui, mais en fait, je ne veux pas gagner d'argent avec, ce n'est pas mon métier. » C'est une situation différente de celle d'un photographe professionnel. D'ailleurs, ma photo, elle est certainement moins bien que celle d'un photographe professionnel. Mais voilà, je vous la donne, vous pouvez vous en servir comme vous voulez. C'est une logique, c'est plus un lifestyle qu'une licence juridique. C'est important de comprendre ça. C'est une écriture juridique, mais de quelque chose qui dit « je préfère partager et voir mon travail circuler que de le faire payer et puis en fait personne ne va venir l'acheter ». Pour terminer, bien comprendre que quand on parle de la régulation d'Internet, parce qu'on en parle de plus en plus, ça apparaît dans les journaux, dans les médias, etc., c'est pas forcément de l'interdiction. Ça, c'est les lobbies qui sont concernés, comme la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, qui interprètent ça uniquement. Pour réguler un système, il y a plusieurs voies, et en particulier dans les systèmes numériques, il y en a un qu'on appelle l'architecture du système, ou que Larry Lessig dit « code is law ». Ceux qui écrivent le code, en fait, ont un pouvoir. C'est comme s'ils écrivaient la loi. Ceux qui écrivent l'algorithme de Facebook, les montrer à coup d'exemple, ont un pouvoir supérieur à même à la loi qui viserait à nous protéger. Et donc, en fait, il faut jouer sur les quatre axes que sont la loi, les normes sociales, les pratiques des individus, le code informatique ou l'architecture d'un système, et puis le marché aussi, qui est un des éléments de démocratisation quand il est vraiment fonctionnel et pas quand on a, comme aujourd'hui, quatre entreprises qui dirigent l'ensemble. Là aussi, on a des formes de démocratie. Il n'y a pas la démocratie en général. Il y a des formes, il y a démocratie représentative, on va élire des gens qui vont décider, la démocratie participative, où on va donner une partie de la responsabilité aux individus, et la démocratie Internet, quelque part, c'est j'ai plein d'initiatives éclatées qui se font à l'intérieur de la zone Internet et qui participent de la construction de quelque chose. À mon sens, les trois démocraties ont besoin de coexister et de se développer ensemble. Pour ça, il faut qu'on développe dans les sociétés plusieurs compétences. Alors, j'appelle les 5 C, le codage. Est-ce qu'il faut savoir coder comme un informaticien? Non, ça c'est un métier. Est-ce qu'il faut comprendre ce que c'est qu'un code informatique, un algorithme? Oui, ça c'est un rôle de citoyen du 21e siècle. La coopération. Je pense que, je l'ai montré avec les derniers exemples, ce qu'on fait à plusieurs est toujours beaucoup plus grand que ce que chacun pourrait faire. Et y compris, si on y réfléchit bien, ces médias sociaux, c'est nous qui les faisons. Arrêtons d'écrire, il n'y a plus de Facebook. D'accord ? Donc, voilà, donc ce qu'on fait, c'est qu'on apprend à coopérer. La compréhension, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire lever le voile sur tout ce qui se trame derrière le service qu'on a au travers de l'écran de notre téléphone mobile. La culture, acquérir une compréhension de la culture numérique. Et enfin, le comportement. Je crois que ce qui est important, c'est définir un espèce de savoir-être dans le monde numérique. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a quelques règles assez simples. Par exemple, avant de faire recirculer quelque chose, je le lis. Je ne m'intéresse pas au titre qui dit c'est la même chose que moi, je vais lire l'article. Si j'ai fait ça, je peux le faire circuler, je suis en droit. Sinon, je peux me faire arnaquer par un titre qui dit le contraire de l'article, ou je peux privilégier une émotion sur la réflexion, ou je peux avoir un comportement qui, in fine, est dangereux pour l'homogénéité sociale. Lire avant de faire recirculer, ça c'est un élément assez intéressant. Puis il y a plein d'autres types de comportements, de savoir-être à l'intérieur du monde numérique. Réfléchir à deux fois avant d'écrire un message insultant. Voilà, enfin bon, toute une série de règles comme ça qu'il nous faut apprendre et qu'il nous faut apprendre par nos pratiques sociales. Personne ne nous les apprendra. Donc ça va venir de l'autorégulation quelque part des individus. We are the Internet, c'est nous qui le faisons. Voilà, apprendre et comprendre, c'est les deux objectifs que je fixe à la culture numérique. Voilà, j'espère que je ne suis pas le seul. Je pense qu'il n'y a pas de déterminisme technologique, c'est-à-dire c'est pas parce qu'il y a une technologie qu'il y a des changements dans le monde, mais c'est parce comment cette technologie va être utilisée, va être renvoyée à une culture derrière, à une compréhension, que ça va pouvoir se faire. Où est-ce qu'on va acquérir cette culture numérique ? Certes, c'est le rôle des institutions, et je suis content que maintenant, dans les lycées et les collèges, il va y avoir des cours de culture numérique. Ce qui m'inquiète, c'est le flou du programme. Je ne sais pas trop ce qu'il va y avoir dedans. Mais, encore une fois, soyons optimistes, on va essayer d'y mettre le meilleur. En tout cas, voilà, j'espère qu'ils écoutent mes vidéos. Et puis, par les pratiques sociales, justement, là, on est en train de se rendre compte. On a basculé sur un système de contrôle, d'influence, qui est disproportionné avec la réalité de nos usages. Donc on va avoir un retour vers de nouvelles pratiques sociales qui utilisent la force, les qualités du numérique, mais qui les utilisent au service de notre autonomie, notre indépendance individuelle. Voilà. Pour moi, c'est la culture numérique, c'est en fait comment on est citoyen au XXIe siècle. Et je m'arrête là-dessus. Et 59, hein. C'était pas calculé, mais...